Bonjour à chacun. Pour le message de ce matin, j'ai choisi d'aborder un sujet qui, me semble-t-il, nous concerne tous. C'est aussi personnellement un sujet qui a pris une certaine place dans ma vie ces dernières semaines. Ce matin, j'aimerais vous parler du découragement. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Est-ce qu'il vous arrive d'être découragé? Est-ce que vous êtes découragé ce matin? Est-ce que vous avez été découragé cette semaine? Si vous pouvez répondre au moins une fois oui à une de ces questions, alors le message de ce matin pourrait vous intéresser. Pour aborder ce sujet, je me suis tourné vers un des nombreux psaumes où le psalmiste est découragé, où le psalmiste dit son découragement. Il l'exprime, parfois avec des mots très forts. Mais c'est quoi le découragement? Le petit Robert dit: état d'une personne qui est découragée. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup. Perte de courage, de l'énergie. Ça va déjà un petit peu mieux. Et puis, il donne une série de synonymes: abattement, accablement, cafard, démoralisation, déprime, désenchantement, écœurement. Bon, je ne l'aurais pas mis, mais écœurement. Alors, plus familièrement, on est peut-être plus habitué à ce qui va suivre, on pourrait ajouter avoir le moral à zéro, avoir le moral à plat, avoir le moral au ras des pâquerettes, avoir le cafard ou bien cafardé, avoir le bourdon, en avoir gros sur le cœur, en avoir gros sur la patate, broyer du noir, manger le sang, je ne la connaissais pas, manger le sang, être au 36e dessous, et puis avoir le moral dans les chaussettes. Le découragement fait partie de la condition humaine, de notre condition humaine, et le nombre important de locutions pour le dire, l'atteste. En fait, le découragement est attaché à notre nature pécheresse. Il existe parce que nous vivons dans un monde déchu où la perfection n'existe pas, où le mal, le péché, les difficultés sont une réalité quotidienne, produisant en nous toutes sortes de sentiments négatifs, dont le découragement. Quand on est découragé, tout est plus difficile. Quand on est découragé, la moindre difficulté, la moindre chose peut prendre de grandes proportions. C'est vrai dans la vie de tous les jours, et c'est vrai aussi, bien évidemment, dans la vie chrétienne. Et c'est pourquoi un chrétien découragé a du mal à avancer sur le chemin de la foi. Il a du mal à faire confiance à Dieu. Il a du mal à vivre des promesses de Dieu. Ceci dit, nous ne sommes pas tous égaux devant ce qui peut amener au découragement et devant le découragement lui-même. Nos personnalités sont différentes, nos tempéraments sont différents, nos caractères sont différents. Et tout ça, ça fait que certains voient très facilement la bouteille à moitié pleine, alors que d'autres ont tendance à la voir systématiquement à moitié vide, et ils sont plus facilement démoralisés que les autres. Il faut ajouter à cela que nos circonstances ne sont pas les mêmes. Nous ne vivons pas tous les mêmes choses, et nous ne vivons certainement pas tous les mêmes difficultés. Certains parcours de vie sont bien plus chahutés que d'autres, plus exigeants, plus difficiles. C'est un fait indéniable. Mais il nous faut noter ici que celui qui vivra suffisamment longtemps sur cette terre finira tôt ou tard par vivre des choses difficiles, des choses qui le bousculent, des choses qui le découragent, des choses, s'il est chrétien, qui pourront peut-être même l'amener à douter de la bonté de Dieu. Bien sûr, quand nous parlons de découragement, nous parlons d'une large palette, parce que tous les découragements ne sont bien évidemment pas de même nature. Ça va du petit coup de blues à la grosse déprime, en passant par le petit coup de mou du lundi matin, et j'en passe. Et puis, il y a aussi tout ce qui est du domaine du pathologique que je n'aborde pas parce que, non pas parce que ce n'est pas important, mais parce que ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas mon domaine, mais bien évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Dans le psaume que nous allons méditer ce matin, le psalmiste est donc découragé. En fait, son moral est vraiment au ras des pâquerettes, dans les chaussettes. On peut difficilement aller plus bas. Au début du psaume, sa confiance en Dieu semble être juste au-dessus du zéro absolu. Il ne comprend pas. Il ne comprend plus Dieu. Il ne comprend plus les voies de Dieu le concernant. Il ne comprend pas, il ne comprend plus les circonstances de sa vie. Mais le psalmiste ne va pas en rester là. Et nous allons le voir cheminer du découragement à la confiance renouvelée en Dieu. Un parcours que vous avez certainement, comme moi, déjà pu expérimenter. Et si ce n'était pas le cas, alors les versets de ce psaume sont comme un exemple stimulant pour chacun de nous ce matin, comme une invitation à nous retrousser les manches si nous sommes dans le découragement, comme une feuille de route pour nous aider à passer du découragement à la confiance renouvelée en Dieu. Un dernier mot sur le découragement en général avant d'en venir à notre texte. Je crois personnellement que le découragement, comme beaucoup d'autres émotions dans notre vie, le découragement est à premier abord quelque chose de légitime. C'est une émotion humaine légitime. Ce qui est problématique, à mon sens, avec le découragement, ce n'est pas qu'il croise notre chemin à un moment donné. Ce qui est problématique, c'est que nous choisissions de faire route avec lui après qu'il ait croisé notre chemin. Ce qui est problématique, c'est que nous le laissions s'installer dans notre vie et que nous le laissions prendre le contrôle de nos émotions et de notre vie. Voilà, me semble-t-il, où se situe le véritable enjeu. Et c'est, je crois, une utopie dangereuse de croire pouvoir ou devoir ne jamais même commencer à être découragé. On entend parfois dire que le vrai chrétien, entendez, le chrétien vraiment spirituel, lui ou elle n'est jamais découragé. Il est au-dessus de cela. Et il ne doit jamais être découragé. Je crois personnellement que c'est une erreur de voir les choses ainsi. Une erreur qui va nous pousser à vivre une vie chrétienne de façade. Il peut arriver aux chrétiens comme à n'importe qui d'autre d'être découragé. Il n'y a rien d'anormal à cela. Là n'est pas le véritable problème. Je le répète, ce qui me semble problématique, ce n'est pas que le découragement croise notre chemin, mais que nous décidions de faire route avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il existe une alternative. Quand le découragement croise mon chemin, je peux aussi, après avoir repris mes esprits, décider de ne pas continuer avec lui. Décider de prendre un autre chemin. En tant que chrétien, je fais alors le choix de la foi. Le choix de la confiance en Dieu. Le choix de croire Dieu, de croire sa parole, de croire ses promesses. le choix de regarder à Dieu plutôt que mon nombril, qu'à mon nombril et à mes circonstances uniquement. Alors bien sûr, ce choix ne se fait pas tout seul, et il n'est pas facile, pas toujours facile. En fait, c'est un renoncement qu'il faut faire à ce moment-là. Et un renoncement, par définition, ça coûte quelque chose, ne serait-ce que d'arrêter de s'apitoyer sur soi-même. Faire ce choix-là, c'est faire le choix du chemin qui nous conduit du découragement à la confiance renouvelée en Dieu. Alors venons-en à notre texte, c'est le psaume 13, comme cela s'affiche. Et notre homme découragé, c'est David. Et je vous invite à la lecture de ce tout petit psaume, puisqu'il ne fait que 6 versets, et je le lis dans la traduction de la NBS, donc la Nouvelle Bible Second. Psaume 13. Du chef de cœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et chaque jour le chagrin au cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Seigneur, mon Dieu. Fais briller mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai emporté sur lui » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je vacille. Moi, j'ai mis ma confiance en ta fidélité. Mon cœur trouve de l'allégresse en ton salut. Je chanterai pour le Seigneur, car il m'a fait du bien. » Notre petit psaume se découpe naturellement en 3 parties. Nous avons tout d'abord les questions du découragement, versets 1 à 3, puis versets 4 à 5, le cri de la prière, et le verset 6, la louange de la foi retrouvée ou la louange de la foi renouvelée. J'ai donc intitulé ce message « Du découragement à la confiance renouvelée en Dieu ». Tout d'abord, donc, les questions du découragement. L'auteur de notre texte est donc David. Et David, vous le savez, comme moi, c'est un homme de foi. C'est un homme qui a appris à mettre sa confiance en Dieu. C'est un homme qui a vu Dieu à l'œuvre maintes et maintes fois dans sa vie. Et pourtant, là, dans ce psaume, c'est un homme qui connaît lui aussi le découragement. Aucun passage de la Bible ne nous donne d'indication qui nous permettrait de faire correspondre ce psaume à un événement précis de la vie de David. Si nous nous hasardions à chercher, nous pourrions au mieux émettre quelques hypothèses. Mais une chose est sûre cependant, ce psaume est de David. Et il reflète les sentiments de David à un moment précis de sa vie. Notons qu'à la lumière d'autres psaumes écrits par David, nous pouvons dire que l'expérience qu'il décrit ici dans ce psaume 13 n'est de loin pas une expérience unique pour lui. David a connu plusieurs fois dans sa vie de profonds découragements. Peut-être avait-il une certaine propension à la déprime, voire à la mélancolie. Bien évidemment, nous savons qu'il a connu de grandes difficultés dans sa vie qui peuvent expliquer bon nombre de ses découragements. Le moins que l'on puisse dire est que David, ici, en commençant à écrire ce psaume, est déprimé. 4 questions, il utilise 4 questions, où il s'exprime avec 4 questions qui vont exprimer son découragement. Jusqu'à quand? Le découragement dans lequel il se trouve. Mais il me semble qu'elles expriment aussi autre chose. Elles expriment aussi une certaine incrédulité, en tout cas une certaine perte de confiance en Dieu. Ceci dit, si les paroles de David traduisent une certaine incrédulité, un certain manque de confiance en Dieu, elles traduisent encore autre chose. Elles traduisent en particulier toute l'angoisse, toute la détresse qui se trouve à ce moment-là dans le cœur de David. Parce qu'à l'évidence, David souffre quand il écrit ce psaume. Il souffre profondément. Le découragement que l'on accepte dans sa vie finit toujours par être une profonde souffrance. Et puis les questions de David traduisent aussi, sans doute, son désir de voir la délivrance de Dieu quand il dit « jusqu'à quand ?» Il attend, il espère la délivrance. Elle traduit son espérance en la délivrance de Dieu. C'est paradoxal. Et pourtant, ces questions font déjà partie de la prière de David. Voyez-vous, les choses sont ici comme souvent très mêlées. Les paroles de David traduisent des sentiments, des réalités contradictoires. Et c'est souvent ainsi dans notre vie. En nous cohabitent parfois, souvent même, des sentiments opposés. En nous sont parfois mêlées la joie et la tristesse. La volonté et la paresse ou la procrastination, la foi et le doute, ce n'est jamais tout ou rien, mais souvent la cohabitation de choses contraires. À l'instar de ce père dans les évangiles qui dit à Jésus « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » La foi et le doute. Et ce que je trouve très encourageant devant ce constat des sentiments mêlés de David, c'est que Dieu nous offre un espace pour cela. Nous pouvons être vrais devant Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire semblant que tout va bien et que nous sommes dans la joie si nous sommes dans la tristesse ou alors dans la confiance si le doute nous habite. Nous pouvons être vrais devant Dieu. Et sans tout cautionner, bien évidemment, Dieu nous permet d'être vrai devant lui, d'épancher notre cœur devant lui, parce qu'il sait très bien de quoi nous sommes faits. Alors nous ne savons pas ce qui a causé le découragement de David. Peut-être c'était la maladie. Il évoque la perspective de la mort au verset 4. Peut-être était-il tout simplement en proie des ennemis, des adversaires. Il en parle au verset 3, au verset 5. Il est impossible d'être sûr. Mais il y a une chose qui est certaine. David ne passe pas par le petit découragement du lundi matin quand il faut se lever pour aller au travail. C'est beaucoup plus profond que ça. Quelle qu'en soit la cause, celui-ci semble avoir pris racine en lui, dans sa vie. Et les questions que David pose au verset 2 et 3 traduisent un profond découragement, traduisent une perspective en Dieu qui est profondément affectée, profondément faussée. Ces questions traduisent une perspective de Dieu qui a été faussée par le découragement. Alors regardons d'un petit peu plus près ce que dit David. Il commence par dire au verset 2 « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ?» David a le sentiment que Dieu l'a oublié. Vous connaissez ce sentiment ? Il est vrai qu'il peut arriver dans notre vie que nous ayons ce sentiment. L'impression que Dieu est aux abonnés absents, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu ne répond plus, que Dieu ne s'intéresse plus à nous. Mais Dieu peut-il vraiment nous oublier ? Dieu peut-il vraiment nous tourner le dos ? Dieu peut-il vraiment ne plus s'intéresser à ses enfants ? Vous me direz, c'est juste une façon de parler. une façon d'exprimer sa souffrance, cette réalité, la réalité de cette souffrance intérieure, peut-être. C'est possible. Mais si cette voie est indéniablement la voie de la souffrance, je perçois ici, comme je l'ai déjà dit, une certaine incrédulité. Mais revenons à notre interrogation. Dieu peut-il nous oublier ? Est-ce que l'omniscience de Dieu pourrait avoir des trous de mémoire ? Est-ce que le cœur de Dieu pourrait oublier ne serait-ce qu'un de ses enfants, un de ses enfants bien-aimés, pour lesquels il a donné son Fils unique ? Est-ce que Dieu pourrait agir ainsi au point de ne plus se soucier de nous et de nos problèmes ? La réponse est non, bien évidemment non, 3 fois non, 1000 fois non. Dieu ne peut pas oublier encore moins un de ses enfants. Et il nous faut bannir à jamais cette pensée de notre cœur si elle s'y trouve. Non, Dieu n'oublie pas. Non, Dieu ne m'oublie pas. Non, Dieu ne vous oublie pas. Je peux peut-être par moment le penser, subjectivement le penser, mais objectivement, Dieu ne le fait pas. Et pourquoi est-ce que je peux l'affirmer ? Parce que la parole de Dieu l'affirme. C'est une certitude que Dieu nous dit dans sa parole. Écoutons par exemple ce que le prophète Ésaïe répondait au peuple qui disait « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », voilà ce que disait Israël. Et voilà ce qu'Ésaïe répond de la part de Dieu. Si on disait « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », une femme oublie-t-elle son nourrisson ? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre ? Quand elle l'oublierait, ce qui paraît déjà improbable, moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs, puisqu'il parle de Jérusalem, sont constamment devant moi. Qu'en est-il des autres questions ? Jusqu'à quand ? Nous n'allons pas les développer, mais j'aimerais simplement souligner qu'elles me semblent un petit peu plus rationnelles que celles que nous avons vues au verset 2, et donc d'une certaine manière un peu plus légitimes. Mais que ce soit « jusqu'à quand te détourneras-tu de moi ?» ou « jusqu'à quand aurai-je des soucis et chaque jour le chagrin au cœur ?» ou encore « jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» ce sont à chaque fois des questions qui soulignent à ce moment-là, une perspective faussée de Dieu. Pour David, Dieu, à ce moment-là, ne s'intéresse plus à lui. Dieu ne prend plus soin de lui. Dieu n'est plus son refuge. David est complètement dans le gouffre du découragement. Mais heureusement, David n'en reste pas là. Nous ne savons pas si son état de découragement est récent, s'il dure depuis longtemps. Toujours est-il que de la revendication, David va passer à la requête. Versets 4 et 5. « Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Fais briller mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai emporté sur lui » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je vacille. » De la revendication, David passe à la requête. C'est peut-être pas grand-chose, et pourtant c'est beaucoup. C'est d'une certaine manière le premier pas, un premier pas indispensable pour aller du découragement vers cette confiance renouvelée en Dieu. En passant de la revendication à la requête, David ne se tourne plus vers Dieu pour lui faire des reproches. Jusqu'à quand ? Pour exprimer sa souffrance, exprimer ses doutes. Il y a eu un temps pour cela et Dieu l'a permis. Mais il se tourne vers Dieu pour lui demander son secours. Et c'est ça le début de la victoire pour David. Parce que, bien évidemment, la prière aurait pu s'arrêter à la fin du verset 3. David aurait pu se contenter de revendiquer et de dire jusqu'à quand, et d'en rester là. La victoire sur le découragement, sur la déprime dans notre vie, je le redis, je ne parle pas ici de tout ce qui est d'ordre pathologique. Cette victoire à laquelle nous invite ce psaume, ce n'est pas les circonstances qui changent, même si ça peut nous aider. Ce n'est pas que je change ou que David change, ça peut certainement aussi aider. Ce n'est pas non plus que les autres changent. Ce n'est pas ça la victoire. La victoire, c'est de se tourner vers Dieu dans une démarche de foi, de confiance, même si c'est un balbutiement, même si nous bafouillons, peu importe. L'important, c'est de le faire. Et c'est là le surchemin pour sortir, et vous reconnaîtrez dans l'expression le voyage du pèlerin, pour sortir du bourbier du découragement. Oui, c'est ce que fait David. Il crie à Dieu dans ses versets 4 à 5. Son âme est à l'évidence encore abattue. C'est pas complètement derrière lui, mais il crie à Dieu. À l'évidence, c'est comme ça que je le comprends, les circonstances de sa vie n'ont pas vraiment changé, mais quelque chose dans son cœur a changé. Une nouvelle lueur de foi brille à nouveau dans son cœur. Bien sûr, ce qui est décrit dans ces psaumes, dans ces versets, a pris bien plus de temps qu'il n'a fallu à David pour les écrire, ces six versets. Ce passage de la revendication à la retraite a certainement pris des jours, peut-être des semaines, peut-être des mois. Ici, tout est ramassé, on a l'impression que ça se fait dans un claquement de doigts. Alors, on ne le sait pas, mais on peut quand même le supposer si on regarde certains découragements dans nos vies qui peuvent parfois durer un petit peu. Ceci dit, même si David a cheminé, la pensée de l'abandon de Dieu est pourtant encore présente au verset 4, quand il dit « Regarde, regarde, réponds-moi, Seigneur, mon Dieu. » C'est un peu comme si David disait à Dieu « Tu m'as oublié, eh bien regarde maintenant, regarde où j'en suis, rends-toi compte de ce qui m'arrive. » N'est-il pas plus que temps que tu agisses dans ma vie ? Si on peut déceler encore quelques traces d'une perspective faussée, il est évident néanmoins que les marques de la foi, les marques de la confiance sont maintenant bien là. Fais briller mes yeux, dit David. Donne à mes yeux la clarté. Autrement dit, redonne une juste perspective à ma vision des choses, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. Alors soit David est gravement malade, soit il a pris conscience de l'effet soporifique du découragement dans sa vie spirituelle. Parce que oui, dans les ténèbres du découragement, il est facile de s'endormir du sommeil de la mort, c'est-à-dire de s'éloigner de Dieu. C'est la raison pour laquelle David dit « Fais briller mes yeux ». Dans sa détresse, dans son découragement, David s'est tourné vers Dieu. De la revendication, il est passé à la requête. Et de la requête, il passe maintenant à la louange, à l'affirmation de sa confiance retrouvée, renouvelé en Dieu. Moi, j'ai mis ma confiance en ta fidélité. Mon cœur trouve de l'allégresse en ton salut. Je chanterai pour le Seigneur, car il m'a fait du bien. Quelque chose s'est passé. Entre le verset 5 et le verset 6, quelque chose s'est passé. Ce que nous constatons, c'est que dans la présence de Dieu, le découragement de David s'est transformé en louange. sa foi a été renouvelée. Oui, quand un malheureux crie, dira David au psaume 34, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est une certitude. Oui, dans la présence de Dieu, tous nos découragements finissent par être consolés. J'en ai souvent fait l'expérience et je pense que beaucoup parmi nous, ici ce matin aussi. Maintenant, David peut à nouveau voir les choses avec une juste perspective. Ses circonstances n'ont peut-être pas changé, mais son cœur est dans l'allégresse. Pourquoi ? Parce qu'il a repensé à Dieu. Il s'est souvenu de qui est Dieu. Il s'est rappelé de sa fidélité. Il s'est rappelé de sa bonté. Il s'est remémoré son salut. Et la flamme de sa foi, de sa confiance en Dieu a été ranimée, ravivée, réveillée, revigorée, encouragée. Moi, j'ai mis ma confiance en ta fidélité. Mon cœur trouve de l'allégresse en ton salut. Je chanterai pour le Seigneur, car il m'a fait du bien. Chers amis, nos circonstances peuvent parfois nous démontrer le contraire, mais la foi nous assure toujours de la bonté de Dieu. La foi nous assure toujours de sa fidélité pour nous. C'est pourquoi David peut à nouveau chanter. Vous savez, pendant l'orage, quand il pleut, quand il vente, quand c'est la tempête, si vous tendez l'oreille, vous n'entendrez pas les oiseaux chanter. Pendant l'orage, ils ne chantent pas. Mais dès que la pluie cesse, vous les entendez à nouveau. Les chants reprennent. Et c'est ce que fait David ici. Après la tempête de son découragement, il peut à nouveau chanter « Je chanterai pour le Seigneur, car il m'a fait du bien ». Dans son découragement et avec tous ses sentiments les plus contradictoires, David est venu à Dieu. Et là, il a été transformé. Il est passé du découragement à la louange, à la confiance renouvelée en Dieu. Si au commencement, David doutait, David déprimait, maintenant il chante. Au début, il disait « Dieu m'a abandonné ». Et maintenant, il dit « Dieu m'a fait du bien ». Quel changement merveilleux dans la présence du Seigneur. Chers amis, j'aimerais ce matin nous encourager, chacun, à nous souvenir de ce psaume 13, la prochaine fois que le découragement viendra frapper à votre porte. Et s'il nous arrivait de lui ouvrir la porte, ne le laissons pas s'installer dans notre vie, mais venons chercher auprès de Dieu les ressources pour avancer sur le chemin de la foi, sur le chemin de la confiance renouvelée en la bonté, en la fidélité de Dieu. Et nous pourrions ajouter encore beaucoup d'autres choses qui sont vraies pour Dieu. Peut-être êtes-vous ce matin, en ce moment même, dans le découragement. Alors puisse cet exemple de David être pour vous un puissant encouragement à vous tourner maintenant, à vous tourner aujourd'hui vers le Seigneur pour chercher son secours, pour remettre devant vos yeux qui il est, pour vous rappeler de sa bonté, de sa fidélité, pour vous souvenir de son salut, de votre salut. Le secours qui est en Dieu est un secours qui ne manque jamais. Entrer dans cette démarche, c'est entrer sur le chemin de la victoire, sur le chemin de la confiance retrouvée en Dieu, sur le chemin de la joie de Dieu qui se trouve en Dieu. Moi, j'ai mis ma confiance en ta fidélité. Mon cœur trouve de l'allégresse en ton salut. Je chanterai pour le Seigneur, car il m'a fait du bien. Amen.